du jour avec le Père Willem.
La terre, un chemin vers le ciel. Acte 5, dans la suite de ce que nous disions dans l'émission précédente, habiter le ciel et la terre, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, au verset 20-23. Il s'agit maintenant de peupler cette terre. Et cette terre est prête à accueillir l'homme, les hommes, et ce qu'on appelle l'humanité. Pour ce faire, ce récit reprend les grandes étapes précédentes. Habitant du ciel et la terre, et enfin de la terre ferme. Oui, c'est cela la découverte. Ce cinquième acte est consacré aux oiseaux et aux animaux aquatiques. Parmi eux, le récit distingue les grands monstres marins. Dans les mythologies mésopotamiennes, ces géants des mers étaient des monstres hostiles que les divinités devaient mater au prix de violents combats. Ici, ce sont de simples créatures inoffensives au regard de Dieu, qui les qualifie également de bonnes. Pour la première fois dans le récit, il est fait mention d'êtres vivants. Littéralement, il est fait mention d'êtres vivants, dans le sens fort du terme. Littéralement, il s'agit d'une nefesh. C'est un terme très important en hébreu, nefesh. Une nefesh vivante. Le terme nefesh pouvant être traduit par âme ou par gorge, car il s'agit de l'organe par lequel le souffle entre dans l'être. Pour l'auteur, vivre, c'est respirer. Pour la première fois également, Dieu s'adresse à sa création. Il bénit les animaux et leur demande de se multiplier à foison pour peupler la terre. Alors arrive l'acte 2, et le gagnant est là. Il y a un gagnant. Voyez, dans Genèse, chapitre 1er, versets 24 et suivants. Deux scènes pour cet avant-dernier acte. Le dernier concerne la création des animaux terrestres. Toujours sous l'impulsion d'une parole divine, la terre produit bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Ces versets ont été parfois sollicités pour tenter de démontrer que la théorie de l'évolution des espèces était incompatible avec la révélation biblique. En fait, il est imprudent de traduire mine par espèce au sens biologique du terme. Pour l'auteur biblique, il s'agit d'opérer une classification des animaux, mais pas de se prononcer sur la généalogie qui relie les différentes sortes d'animaux. La seconde scène est consacrée à la création de l'homme. Celui-ci se distingue nettement des animaux en étant façonné à l'image et à la ressemblance divine. L'homme est d'emblée créé, sexué, homme et femme, étant placé sans strict pied d'égalité. L'homme est également placé en situation de domination sur l'ensemble de la terre. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre ». Et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampe sur la terre. Les versets 30-31 fixent le régime alimentaire des hommes et des animaux. Surprise, tous sont strictement végétariens. Oui, tous végétariens. Hein, les bouchers sont au repos. Ce qui signifie que nul n'a besoin de tuer pour se nourrir. Le récit établi dans un rapport pacifique entre les différents êtres vivants qui peuplent la planète. Pas de prédateurs ni de proies dans le projet divin. Dans la suite du livre de la Genèse, ce n'est qu'après le déluge que l'alimentation carnée entre au menu. L'homme continue à dominer les animaux, mais il le fait alors par la violence et il devient l'effroi des bêtes de la terre. Vous voyez le chapitre 9 de la Genèse. En revanche, lorsqu'il évoque la nouvelle création, ah, le prophète Isaïe, quel bonheur de le lire. Le prophète Isaïe envisage la beauté de cette création. On ne fera plus de mal, écrit Isaïe, ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Voyez le chapitre 11 d'Isaïe. Le Seigneur porte un regard très positif sur son œuvre. Tout cela était bon, même très bon. Répétez-le chaque matin en vous réveillant, chers auditeurs. Dire que la terre est très bonne, que la création qui vous entoure est très bonne, alors la journée sera meilleure. Ce ne sera pas la journée où on se plaint d'avance d'un jour nouveau. Aucun mal ne résulte de l'action créatrice. Il ne reste plus à Dieu qu'à souffler un peu. Oui, souffler un peu. Le dernier acte de la création est celui du repos divin. Désormais, la terre est placée sous la responsabilité de l'homme. Et comme son créateur, l'homme est invité à se reposer de son œuvre le septième jour de la semaine. Mais que va faire l'homme de cette responsabilité? Va-t-il toujours agir à l'image de Dieu? Ou va-t-il faire retourner la planète au chaos? Pour connaître l'issue de l'histoire, il reste aux auditeurs à lire tout le reste de la Bible et à relire sa propre histoire, et de regarder le monde, regarder ce qui se passe dans nos dimanches aujourd'hui. D'un côté, on s'ennuie, et pour se désennuyer, bien, on fait une petite promenade d'après-midi avant d'aller dans une pâtisserie pour aller découvrir la mode, la dernière mode du Monoprix. C'est ça, le dimanche. Un dimanche, on s'ennuie. Alors, si les hommes posséder au plus profond d'eux-mêmes la volonté de préserver leur environnement et de défendre leur espace de vie. La terre et les hommes n'ont pas dit leur dernier mot, et ceux qui s'emploient à se battre pour une terre accueillante sont nombreux. Un monde nouveau nous attend. La création n'est pas finie. Et comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, la création gémit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. L'univers reste un formidable levier pour la recherche, l'expression artistique et la vie qui est si belle et bonne. Ne l'oubliez pas.